de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Badiol à la réalisation, pour nous demander ce qui se passe dans le cerveau des champions. À quelques semaines des Jeux Olympiques, comment se sont-ils préparés physiquement et mentalement pour être au top, à l'instant T, dans un état de concentration idéal face au stress et à la pression? Notre invité, le directeur de recherche en neurosciences cognitives, Jean-Philippe Lachaud, éminent spécialiste de l'attention et de l'éducation à l'attention, auteur à succès du cerveau funambule ou de la magie de la concentration, a mené l'enquête jusque dans le cerveau des champions. C'est le titre de son nouvel essai paru chez Odile Jacob, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs champions à l'écoute. Jean-Philippe Lachaud a interrogé des athlètes de haut niveau, de toute discipline, passés maîtres dans l'art de se concentrer pour exceller dans le feu de l'action. Comment ont-ils transformé leur cerveau, leur mental et leur corps? L'un ne va pas sans l'autre. Au fil du temps et des entraînements, et comment cela peut nous aider chacun d'entre nous à cheminer vers notre propre excellence pour traverser le tumulte de nos vies si complexes et le rythme effréné sans cesse sollicité de nos existences. Comment développer nous aussi une force tranquille et une concentration à toute épreuve pour donner le meilleur de nous-mêmes et éprouver, cerise sur le gâteau, le plaisir, la satisfaction, voire la sérénité que cela génère d'être simplement en accord avec soi et avec les éléments, ce qu'on appelle le flow. Autour de la question « Que se passe-t-il dans le cerveau des champions ?» Bienvenue à leur écoute, à commencer par l'apnéiste Guillaume Néry, recordman et champion du monde d'apnée en profondeur à plus de 100 mètres.
Cette pression, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il faut être souple. On peut être souple au niveau du corps. Si la tête ne l'accepte pas, on va se crisper. Et à l'inverse, on peut être parfaitement prêt mentalement si le corps n'est pas entraîné. Les tissus, les articulations ne sont pas huilées pour accepter cette déformation. Ça ne fonctionne pas. Donc les deux vont ensemble toujours. Le corps et l'esprit travaillent main dans la main.
L'apnéiste Guillaume Néry, l'un des champions que vous avez rencontré et interrogé pour vous, enfin pour nous mettre dans le cerveau des champions. C'est le titre de votre nouvel ouvrage. Jean-Philippe Lachaud, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu de Lyon pour être en direct avec nous, cher Jean-Philippe. C'est toujours un plaisir, une sorte de bouffée d'air frais et d'inspiration que de recevoir le chercheur en neurosciences cognitives que vous êtes, directeur de recherche au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, spécialiste internationalement reconnu de la concentration. Vous avez entre autres créé le programme ATOL pour éduquer les enfants à l'attention dans les écoles, un programme qui marche très bien. Vous êtes l'auteur remarquable et remarqué de plusieurs ouvrages à succès, le cerveau attentif, le cerveau funambule, la magie de la concentration et même les petites bulles de l'attention en bande dessinée par vos soins. C'est autour de cette question de l'attention, j'imagine, et de la concentration que vous avez eu envie d'interroger tous ces champions, d'essayer de comprendre comment fonctionne, comment se transforme leur cerveau.
Oui, tout à fait. Déjà, merci pour cette gentille introduction et très complète d'ailleurs. Et c'est vraiment cette notion de concentration et de maîtrise de son attention qui est souvent mal comprise dans notre société. Mmh. Elle est souvent associée déjà à quelque chose de très statique. On imagine la concentration comme celle de quelqu'un qui est en train de lire et qui n'est pas dérangé. Et donc on se dit, oui, mais je ne peux pas vraiment être concentré parce que ma vie, c'est un tumulte de choses qui changent sans arrêt. Il faut que je m'occupe de mes enfants, j'ai une vie professionnelle très agitée. Je ne peux pas être concentré, on a l'impression que c'est antinomique. Mm-hmm. Je voulais montrer que non. En fait, des gens qui sont dans des activités hyper dynamiques, comme les sportifs de haut niveau, arrivent à se concentrer. Donc il y a un mode de concentration qui est parfaitement adapté à cette vie dynamique. Et je voulais également donner envie. Parce que la concentration, c'est souvent associé encore à cet effort plombant. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se concentrer. On a envie de se distraire, de se distraire. D'ailleurs, le terme est intéressant. Alors que pas du tout, en fait, la concentration, elle peut être calme, tranquille, posée et créer une sorte de félicité. Enfin, on en reparlera, je pense. Une vraie connexion à ce qu'on fait.
C'est ça. La concentration, ça peut faire du bien. On va voir que ça fait du bien. Revenons-en au cerveau de nos champions, donc qui sont capable de se concentrer, c'est un entraînement, vous dites au fond. La concentration, l'attention, c'est un entraînement. On sait bien qu'il s'entraîne. C'est un entraînement du corps et de l'esprit. C'est un entraînement du corps et du mental.
Oui, il y a un réel entraînement. En fait, il faut voir qu'un cerveau concentré, c'est simplement un cerveau qui est bien réglé pour la tâche qu'il est en train de réaliser, tout simplement.
C'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, en termes, dans ce qu'il va percevoir, ce cerveau, il va percevoir les choses qui sont plus importantes pour ce qu'il faut faire tout de suite. Si on est en train de descendre une piste de ski à toute allure, ça va être évidemment la position par rapport au piquet, etc. Des ressentis de qualité de neige. Et puis, il va mettre en jeu des façons de réagir qui sont également adaptées à ce qu'il faut faire. Il ne va pas s'éparpiller. Donc, c'est simplement un cerveau qui est bien réglé et qui, ce réglage peut évoluer presque d'un instant à l'autre en fonction de ce qu'on a à faire. Et quand on a des choses à faire qui varient beaucoup, c'est simplement un cerveau qui va s'habituer à se régler de façon un petit peu différente pour aller prendre la bonne information au bon moment. Notamment.
S'adapter, c'est quoi? C'est être vraiment dans l'instant présent absolument. Finalement, c'est une préparation de très longue haleine pour être juste là, quoi.
Oui, mais...
on peut le dire comme ça
ou... Il y a ça, mais en fait, en même temps, cette expression d'instant présent, qui est très associée à la concentration, elle est un petit peu... comment dire? Elle peut induire en erreur.
Oui.
Parce qu'à la vitesse à laquelle ils sont obligés d'avoir dans leur instant présent une petite bulle de futur, un petit élément de futur.
Ah oui.
C'est-à-dire une forme d'anticipation toujours de ce qui va se passer juste après.
Bien sûr.
Ça, c'est vraiment important. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du skieur. C'est vraiment, je skie, je suis complètement dans mes sensations du moment pour faire le bon mouvement. Mais en même temps, j'ai la conscience d'être dans une trajectoire de ce qu'il va y avoir après. Donc, l'instant présent, ce n'est pas un instant pur, ce n'est pas l'instant vraiment T.
Oui, oui.
C'est T plus quelque chose. Il y a ce petit coup d'œil vers le futur.
Et oui, ce sont des super-héros, c'est le premier chapitre de votre livre,
c'est
les super-pouvoirs du cerveau des champions. Ils ont des super-pouvoirs et ce sont des super-héros, on peut le dire comme ça.
C'est complètement ça. En plus, vous avez tous les systèmes de filtres par la compétition qui fait que ceux qui arrivent au sommet, qui ont réussi à passer tous ces filtres, soit ils les ont développés, c'est un processus de sélection qui est extrêmement dur finalement. C'est de la sélection naturelle accélérée. Et comme super-pouvoirs, vous avez des super-pouvoirs qui sont les plus évidents, qui concernent la maîtrise technique. Qui ont à voir avec le cerveau.
Parce qu'en fait, à chaque fois, ça a à voir avec le cerveau.
Presque tout le temps. Disons que tout ce qui est du domaine de la musculature, vraiment d'avoir des muscles, un corps qui est adapté pour pouvoir répondre aux intentions qu'on peut avoir, ça, on est plus vraiment dans l'aspect purement corporel. Mais pour tout le reste, que ce soit donc, comme je dis, technique, qui est le fait de « je veux faire ça, je veux taper la balle, je veux qu'elle aille exactement à cet endroit-là », et mon corps... mon cerveau va envoyer les bonnes commandes aux muscles pour générer exactement le geste qui est le résultat. Après, on pourrait parler de la façon de percevoir le monde, etc., etc. Donc, il y a plein de super pouvoirs qui sont vraiment essentiels.
Être athlète, vous le dites aussi dans cet ouvrage, dans le cerveau des champions, Jean-Philippe Lachaud, être athlète, c'est d'abord dans la tête. Et dans l'entraînement aussi, mais c'est d'abord dans la tête.
Oui, c'est d'abord dans la tête. Et je prends, effectivement, revenons sur la perception qui est intéressante. Un athlète qui évolue dans son domaine depuis très longtemps, il va être capable de cerner des régularités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des régularités? Ça veut dire que, par exemple, je suis joueur de football, imaginons, je suis attaquant, et je sais lire que lorsque les défenseurs adverses sont placés d'une certaine façon, eh bien, il va y avoir une ouverture qui va se produire à un certain endroit, et je vais pouvoir passer là, et donc, avec le ballon, et marquer éventuellement. C'est cette lecture de situation hyper complexe qui, en termes de quantité d'informations, déborderait complètement un débutant, que eux sont capables de ramener à des choses simples pour prédire l'avenir et pour décider de leur action. C'est vraiment une lecture, c'est exactement comme nous. Je vous vois en ce moment avec...
avec mon papier, en train de vous regarder aussi.
Et des centaines de petits signes noirs sur blanc extrêmement complexes. Mais en fait, en un coup d'œil, vous allez extraire la bonne information par rapport à ce que vous voulez faire juste après. C'est-à-dire, par exemple, de quoi vous voulez parler juste après. Mais c'est cette capacité à réduire l'information à l'essentiel qui va vraiment vous servir.
Ça, c'est une capacité, c'est aussi un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir vu, mais c'est le temps, vous le dites vous-même, c'est du temps et de la concentration.
C'est du temps et de la concentration. C'est l'idée que vous prenez n'importe quoi, et ça c'est un peu un message d'espoir dans le livre.
Oui, pour tout le monde.
Voilà, vous prenez n'importe quoi, du moment que vous y passez du temps en étant concentré, vous allez progresser. C'est automatique.
Autour de la question, comment se mettre dans la tête, dans le cerveau d'un champion et même d'un super champion? Allez, une première question pour vous, soulevée par mon confrère, rédacteur en chef de Ciel et Espace, Philippe Hénard-Réjos. On l'écoute.
On montre un exemple souvent, le mental exceptionnel des très grands champions par rapport à d'autres champions qui sont juste un cran en dessous. Est-ce qu'on sait exactement ce qui caractérise ce mental-là? Est-ce que c'est une capacité à rester concentré ou à se reconcentrer vite ou à avoir une intention en permanence ou à avoir une stratégie ou tout simplement à accepter ses fautes? Qu'est-ce qu'on sait du mental des super champions par rapport aux autres qui sont champions et qui sont très forts, mais qui ne sont pas les super champions?
Votre réponse, Jean-Philippe Lachaud, parce que vous avez rencontré des super champions et des champions.
La réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments de réponse. Il y a l'élément de stabilité qui est essentiel. C'est-à-dire que vous prenez un Djokovic, j'aime bien cette citation, il explique que le plus grand talent d'un très grand champion, c'est cette capacité, lorsqu'il est débordé par une émotion, par du stress, il l'accepte parce qu'il sait que le cerveau humain est conçu comme ça. Le cerveau humain va de toute façon partir, l'attention va partir sur toutes sortes de pensées qui peuvent être négatives. Mais il a cette capacité à remarquer très vite que l'attention part pour la ramener instantanément.
Donc à ne pas se laisser embarquer, à remarquer, à constater, mais à ne pas se laisser embarquer.
Voilà, c'est ça. Alors moi, j'aime bien dissocier la capture de la captivation de l'attention. La capture de l'attention, c'est quand il se passe quelque chose qui est saillant, c'est-à-dire qui a tendance à attirer l'attention. On va avoir une pensée, par exemple, on va se dire « mince, je risque de perdre ». Mais ça, c'est tout à fait naturel. C'est le cerveau va fonctionner comme ça, il va générer ce genre de pensée. La captivation de l'attention, quand l'attention reste captive, c'est quand après, on embraye une cascade de processus. « Ah, mais si je perds, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. » Donc toute la suite.
C'est le petit vélo mental. Il faut rester sur son vélo réel, mais pas partir dans son vélo mental.
C'est ça. Et le très grand champion, lui, il accepte la capture, mais il inhibe, il ralentit la captivation, elle ne se produit pas. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a cette capacité à se reconcentrer et accepter. Ça, c'est très important. Donc, c'était dans la question.
Oui, j'accepte que mon esprit parte ailleurs, que j'ai d'autres idées.
C'est normal, je suis un être humain et ça fait partie du fonctionnement du cerveau humain. Donc, ça, je l'accepte pleinement. Et après, il y a cette capacité à se reconcentrer immédiatement, c'est-à-dire à savoir comment se reconcentrer tout de suite. C'est-à-dire, ça veut dire quoi tout de suite? J'ai un geste à faire. Sur quoi je me reconcentre? Est-ce que c'est la balle? Est-ce que c'est etc. Et j'avais trouvé une citation intéressante de Stan Wawrinka qui parlait. Stan Wawrinka, c'était un joueur de tennis suisse qui a la particularité d'avoir gagné 3 tournois de Grand Chelem alors que le tennis mondial était dominé par 3 ou 4 monstres. Lui, s'est faufilé. Il a réussi à battre Novak Djokovic en finale de Roland-Garros, notamment, ce qui n'est pas rien.
Ce qui est pas mal, oui.
Et alors, lui, il était complètement déstabilisé par l'enjeu. Même avant une grande finale, il disait qu'il avait été vomir dans les vestiaires tellement il était... Mais il l'acceptait. Et il disait, avant sa finale contre Djokovic de Roland-Garros, il dit, moi, j'ai cette capacité, je pars dans tous les sens, mais... Vraiment, quand il faut mettre le pied sur le terrain, immédiatement, je me concentre sur mon schéma de jeu. Je sais exactement ce que je dois faire tout de suite.
Et quand je vous écoute, Jean-Philippe Lachaud, j'entends aussi que cette concentration, ce n'est pas une concentration dure, forcée, d'un bloc. C'est une concentration, vous en parliez dans les petites bulles de l'attention, c'est une concentration qui doit pouvoir reprendre ça. Enfin, pas en pointillé, mais qui n'est pas d'un seul bloc et qui n'est pas dans l'attention.
Non, pas du tout. Je vous prends une métaphore. Moi, j'aime bien une métaphore qui est celle de l'escalade. Quand vous grimpez une voie d'escalade, vous allez vous poser vos mains et vos pieds sur des prises. Ça, ce serait les cibles attentionnelles. C'est-à-dire que l'attention, elle va se poser à certains endroits. Et ensuite, vous ne restez pas là. Vous en profitez pour vous donner une impulsion, pour en faire quelque chose. Et ça, c'est la façon dont vous allez interagir avec votre objet d'attention. Et puis, vous passez d'une prise à une autre, à une autre, à une autre. Et donc, ça définit une trajectoire qui, en termes d'attention, est une trajectoire attentionnelle. Donc voilà, vous faites attention à ceci, puis ensuite c'est cela, vous êtes en train vous êtes à deux sur un canoë dans une épreuve olympique, et bien vous savez qu'à un moment, votre attention elle doit être sur les mouvements d'eau, donc les reliefs de l'eau, et puis ensuite elle doit être sur le point que vous visez au loin, parce que c'est là, vous savez que c'est comme ça que vous devez aligner votre canoë, et ainsi de suite, donc ça change tout le temps, mais c'est comme attraper des petites prises les unes après les autres, et puis à chaque fois en faire quelque chose.
Pourquoi est-ce que le cerveau des champions, justement, si attentif, si concentré, si capable de revenir à l'attention, d'accepter ses défauts, ses pensées parasites, pourquoi ça intéresse tant le neuroscientifique que vous êtes, Jean-Philippe Lachaud?
Ça m'intéresse beaucoup parce que, comme je le disais en introduction, en fait, on est tous confrontés à ça.
C'est ça.
On est tous confrontés à une attention qui part dans tous les sens.
D'autant plus avec nos écrans. Enfin, beaucoup de gens qui cherchent à capturer notre attention, d'ailleurs.
Oui, et puis même pas seulement. Vous êtes dans un environnement professionnel habituel. En fait, vous êtes bombardé de stimuli, de messages, de collègues qui vous envoient tout le temps des choses à faire. En fait.
Et comment on fait pour revenir, justement, pour se dire, tiens, là, ok, j'ai envie de répondre à ce mail, mais je vais peut-être rester concentré. Comment on fait?
Justement, c'est cette idée de trajectoire attentionnelle. C'est-à-dire, en fait, très concrètement, ça veut dire, quelle est la chose la plus importante à faire maintenant? Concrètement, pendant les 2-3 minutes qui viennent, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le plus important? Avoir une intention très claire. Et du coup, ça aide le cerveau à faire le ménage. Il dit, ok, bon, le monde ne va pas s'écrouler pendant 3 minutes. Je peux me permettre de me consacrer entièrement à cette petite tâche qui va être courte, comme pour les champions. Voilà, parce qu'un échange au tennis, ce n'est pas très long. Une action au foot, ce n'est pas très long. Donc, pendant un moment, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Et après, on peut passer à autre chose, etc. Donc, c'est avancer d'intention en intention, mais à chaque fois avec une seule intention hyper claire.
Et alors là, on comprend pourquoi, oui, les super champions et les champions, quand ils sont en plein dedans, ils sont juste dans ces quelques secondes qui vont venir.
Bah, ça leur permet d'être en totale connexion avec ce qu'ils font, mais avec toujours cette petite aperçu de ce qui va se passer après.
Qu'est-ce que vous avez appris toutes ces rencontres ? On ne va pas tous les citer, mais on pense au footballeur Sidney Govou, au gymnaste Kevin Dupuis, médaille d'or, tennis fauteuil, Stéphane Houdet. Qu'est-ce que vous avez appris, Guy Forget, en tennisman, enfin, et d'autres ?
Bah, plein de choses, en fait. Il se trouve que dans le processus d'écriture, ça m'arrive souvent de remarquer des trucs en l'écrivant, en synthétisant tout ça, et de me dire, mais en fait, je vais me l'appliquer. Et de me l'appliquer. Et par exemple, je vais vous citer deux exemples.
Parce que vous avez passé beaucoup de temps, vous avez interrogé plusieurs fois au long cours de digérer, il y a ça aussi, digérer, pris le temps de digérer ce qu'il vous disait.
Mis en regard avec mon expérience personnelle.
Oui.
Bon, déjà, une chose très banale, ça m'a appris à prendre énormément de plaisir quand je fais du sport. Ça, c'est. Je le souligne.
D'avoir rencontré tous ces champions.
Oui, parce qu'en fait, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, je fais mon petit tennis du dimanche, donc où je suis nul, et jamais je prétendrai avoir le niveau. Mais par contre, en tant que joueur amateur, moi, quelle est ma préoccupation ? C'est de prendre du plaisir à jouer.
Bien sûr.
Eh bien, il se trouve que quand on commence à régler son attention en disant, mais finalement, j'ai mes repères, je fais attention à la balle quand elle arrive, à cette. Mmh. On a une stabilité de niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue, je sais que je vais jouer au mieux de ce que je peux faire ce jour-là. Je peux être limité par plein de choses, mais je n'aurai pas la satisfaction « Oh, aujourd'hui, j'étais nul », etc. Enfin, si j'étais nul, c'est pour d'autres raisons, mais en tout cas, je maximise mon plaisir. Alors, ça fait un peu idiot de dire ça, mais en tout cas, j'ai toujours un plaisir fou à jouer.
Ça, c'est pas mal. Si on arrive tous à avoir le plaisir de
mais
jouer
oui, c'est ça.
Et de travailler et de faire autre chose. Mais
alors,
en tout
pour
cas,
le
plaisir.
Travail, oui, c'est ça. Pour le travail, non, par exemple, j'ai beaucoup appris cette idée de petit coup d'œil vers le futur, c'est-à-dire de toujours agir en ayant à l'esprit ce qu'on va faire juste après, qui n'est pas une distraction. Et ça, ça crée un état de. Alors, je ne vais pas utiliser le mot flow, on viendra dessus, parce que le flow, parfois, on se le fait prendre par le flow. Enfin, on le redéfinira.
Oui, on se fait absorber par le fait qu'on est bien et que ça glisse et que ça.
On va dire au moins un effet d'aspiration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de phase d'hésitation au moment de passer d'une chose à une autre et une impression de un petit peu d'épiler, quoi, avec une facilité.
Autour de la question, comment se mettre dans le cerveau d'un champion ? Pourquoi ça fait du bien ? Et pourquoi on peut tous en prendre de la graine de concentration ? On continue de s'interroger avec vous, Jean-Philippe Lachaud, à l'écoute d'un titre de la playlist du mois sur RFI qui nous a semblé parfaitement de circonstance. C'est le Malien Sidiki Diabaté qui chante et qui vante les champions. Version Sidiki Diabaté dans la playlist du mois sur RFI. Ce morceau champion, ça a l'air de vous plaire, hein, tout de même.
Ah oui, il m'amuse beaucoup. Jean-Philippe Lachaud. Il n'est pas très facile à reprendre, je pense, pour des supporters avec toutes les modulations vocales. par contre, il me faisait tilter sur le rapport à la compétition. winner, loser, etc. Moi, je veux pas trop la compétition comme ça. Je trouve que dans la compétition, justement, quand on le voit par le, quand on voit la compétition sportive avec la grille de lecture de l'attention et de la concentration,
on le voit autrement que autrement. Que la performance, enfin que la performance contre l'autre.
Bah, c'est-à-dire, c'est une performance avec l'autre. On se met à son meilleur pour obliger l'autre à trouver des ressources pour lui-même se mettre à son meilleur. Si on est moins bon, il va pas être motivé. Il a aucune raison de se mettre à son meilleur, d'aller chercher ses ressources. Et justement, c'est vraiment l'obliger à se concentrer, à aller chercher une façon de placer son attention la plus efficace possible, parce qu'on le pousse dans ses retranchements. Et s'il n'y arrive pas, il perd. Mais au moins, il aura pris une leçon.
Chacun tente de donner le meilleur de soi-même.
Exactement.
C'est une entraide.
C'est une entraide, la compétition.
C'est une entraide
pour aller vers le haut.
Ah, joli. Autour de la question, comment se mettre dans la tête d'un champion, dans le cerveau d'un champion, des champions? C'est le titre de votre ouvrage, Jean-Philippe Lachaud, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, paru aux éditions Odile Jacob, tout de suite une nouvelle question pour vous, soulevée par un de nos invités, psychologue, chercheur et clinicien, Arthur Durif. On l'écoute.
Peut-être j'aurais une question sur ce sujet-là qui est intéressant, c'est plus le côté psychologue existentiel qui est de se dire, souvent on va chercher vis-à-vis des champions la question des valeurs, qu'est-ce que je veux transmettre, est-ce que je peux être fier de moi, est-ce que je suis porteur d'un symbole, d'un pays. Donc à la fois c'est un merveilleux vecteur de motivation et en même temps ça fout sacrément la pression parce que ben, y penser c'est aussi se dire qu'on peut faire honte et donc je me demande dans quelle mesure on ajuste bien ce type de discours pour pas à la fois mettre la pression et en même temps ben, parfois c'est super vertueux, on les voit pleurer dans l'hymne de notre pays par exemple. Voilà, quel équilibre on peut trouver?
Quel équilibre? Sacrée question d'Arthur Durif, oui. Jean-Philippe Lachaud, entre motivation, poids sur les épaules et pression, quoi, justement.
Oui, bien sûr. Ah bon, c'est bien pour la motivation, au moins, on sait pourquoi on... Voilà. Par contre, ça va créer ce que j'appelle des mauvais objectifs, des intentions vagues.
C'était au lieu de l'intention claire et dirigée.
Extrêmement claire, c'est-à-dire que le cerveau, face à une intention qui est me gagner pour mon pays, ça ne veut absolument rien dire pour le cerveau. Pour le cerveau, lui, ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il faut faire tout de suite, pour savoir comment se concentrer. Là encore, quelles informations je dois privilégier, comment je dois y réagir.
Une intention. Donc, il ne faut pas que ce soit mélangé ou qu'il n'y ait pas des tensions, justement, entre j'ai honte, mais je veux, mais j'ai peur de rater.
Non, ça va amplifier ce phénomène de captivation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la moindre erreur, si vous commencez à perdre, ça va être amplifié. Ah, mais je vais perdre, c'est mon pays que je vais abandonner, etc. Moi, j'ai un exemple de Mathieu Castagnet, qui est un joueur de squash qui était numéro 2 français, qui a gagné le championnat d'Europe. Avec l'équipe de France et qui disait mais à quel point parfois c'était lourd de sentir qu'on portait le poids de son pays derrière parce que dès qu'on commence à perdre un point, ça peut vite devenir la panique et parce qu'on perd complètement cette intention précise de qu'est-ce que je dois faire tout de suite. C'est vraiment, on est face à cette intention très très vague de gagner ou de ne pas perdre, ce qui est encore pire, qui veut vraiment rien dire, qui aide absolument pas.
Donc il faut une intention claire, il faut être conscient de ses enjeux pour ensuite pouvoir petit à petit, au fur et à mesure, la suivre.
En fait, ça doit juste motiver pour revenir à ses fondamentaux. Voilà, qu'est-ce que je dois faire tout de suite?
Il y a une question que je vous pose tout de suite d'un de nos auditeurs à Marois, au Cameroun, Oumarou Issa. Que se passe-t-il dans la tête des champions si et quand ils perdent? Jean-Philippe Lachaud.
Ça dépend. Ça dépend si c'est un très grand champion. Alors bon, je pense qu'on est humain. De toute façon, il y a toujours une déception. Ça, c'est évident. Personne n'aime perdre.
Bien sûr.
Mais je prends beaucoup d'exemples du tennis parce que j'aime bien le tennis, mais c'est assez général.
Oui.
C'est Joe Wilfried Tsonga, notre numéro un français en tennis pendant un long moment, qui disait, mais vous savez, le tennis, moi, je perds toutes les semaines. Le tennis, c'est perdre. Et donc, il faut l'accepter. La défaite la défaite est souvent plus intéressante que la victoire. Parce qu'elle montre ce qu'il faut travailler. La victoire, on est très content, on a les petits ego boosts, etc. On est le plus fort du monde pendant 2 jours. Mais finalement, il n'y a pas tellement d'informations.
Donc, il faut s'habituer à la défaite, enfin profiter de ça.
C'est-à-dire enlever l'aspect émotionnel de la défaite, ouais. L'évacuer
le plus vite possible. L'accepter, mais l'évacuer.
Accepter d'être triste parce que c'est normal.
C'est ça, oui.
Accepter d'être déçu, ok. Mais tout de suite, essayer de retirer de l'information. Et vous avez cette phrase magnifique de Rafael Nadal, le fameux tennisman, l'ultra champion espagnol de tennis, qui après une fois, il a eu une très mauvaise série contre Novak Djokovic, il avait perdu 6 fois de suite. Donc avec on imagine pour ces champions ce que c'est.
Ouais.
Il se prenait des ratatinés à chaque fois. Et la 6e défaite, il a dit au moins j'ai un objectif clair quand je vais m'entraîner maintenant.
C'est extraordinaire.
Ah oui, c'est vraiment ça.
C'est comment retourner finalement.
Complètement en
positif. Retourner en positif. C'est la question du positif. Et alors, on a parlé de ces idées négatives. On n'a pas tant que ça parlé du stress, qui est des questions qui vraiment nous interrogent. Enfin, ouais, comment font les champions qui sont évidemment soumis au stress? Comment font-ils par rapport aux blessures? Parce que parfois, il y a des dangers de blessures. Quand on sait bien qu'on est très fort hein, pour se faire mal quand on ne peut pas y aller. Enfin, je ne sais pas.
Ah oui, oui, c'est ça. Oui, parfois, effectivement, on peut aller jusqu'à se blesser ou voilà, pour avoir une excuse. Bon, ça, c'est pas très positif comme état d'esprit. Le stress, il va souvent agir, il peut créer un surcontrôle qui est que, comme on a peur de rater, on va contrôler des automatismes qui sont d'ordinaire efficaces, des automatismes moteurs, ceux qui ont été développés par des milliers d'heures d'entraînement. On va passer dans un mode où on les surveille un peu et où on les contrôle. Et en fait, pour les contrôler, il faut les ralentir, il faut enrayer, et on va perdre toute la fluidité. Et ça donne le phénomène qu'on appelle en anglais de choking, c'est-à-dire que tout d'un coup, on ne sait même plus faire les gestes les plus élémentaires parce qu'on est trop dans le contrôle.
Exactement,
voilà. C'est-à-dire qu'il faut arriver à retrouver cette détente, ce qui n'est pas facile.
Mais non.
Et moi, j'adore une citation de Guillaume Néry qui rejoint celle qui...
Ah, Guillaume Néry qu'on a entendu au début, ouais, hein, cet apnéiste formidable.
Et en fait, il disait, et je trouve que ça s'applique parfaitement au stress, il disait en fait, je ne combats pas la pression, parce que la pression, là, c'est la pression de l'eau, hein, hydraulique, vraiment.
Bien sûr.
Je l'accepte, je me glisse dedans.
C'est
et ce qui est intéressant, c'est que le stress va souvent se manifester de la même façon, par une sorte de torsion du corps, on sent le corps qui réagit, qui se crispe, etc. Mais plutôt que de refuser cet état, qui est en fait une réponse du corps et du cerveau à une sensation de danger, c'est l'accepter et essayer de trouver une petite marge de manœuvre. Comment est-ce qu'on peut se couler là-dedans jusqu'à ce que ça se détende progressivement? Et les champions, les plus grands encore, ont cette capacité à nouveau d'acceptation.
Okay, c'est je suis ça, stressée. Ça revient beaucoup, hein, l'acceptation. Accepter son état au moment présent et on fait avec. Et on jongle avec, on se faufile là-dedans.
Les tout meilleurs sont d'un pragmatisme absolu, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation totale de leur situation et de leur état tel qu'ils sont dans le moment et de leur adversaire, etc. Qu'est-ce que je peux faire de mieux malgré tout? Est-ce qu'il me reste une toute petite marge de manœuvre pour essayer d'aller grappiller quelque chose, un petit trou de souris par lequel je peux passer?
Mais ça veut dire aussi que les grands champions, il y a pas mal de questions de nos auditeurs à ce sujet, que ce soit sportifs ou que ce soit des gens qui lisent ou des champions d'échecs, nous demande une auditrice de Madagascar. Au fond, les champions, ils ont un cerveau aussi entraîné que leur corps et vice-versa. Enfin, je veux dire, ça va ensemble.
Complètement. Alors, c'est ça. Est-ce qu'ils l'avaient au départ? Est-ce que ça leur a permis
question, hein.
Ou est-ce que par essai-erreur? Moi, je crois que, en fait, face à une opposition... une confrontation à de l'adversité qui est constante, puisque c'est ça, en fait, devenir un champion, vous avez cette sélection qui est tout ce qui ne marche pas, vous l'évacuez, et vous finissez par garder ce qui marche. Donc, c'est un processus d'évolution accélérée qui aboutit à ces états absolument bluffants.
Et ce qui veut dire aussi qu'on peut faire, il y a des transformations, hein, comme ça, enfin, le cerveau s'adapte, le corps s'adapte, ce qui veut dire qu'on peut se transformer, même physiquement, on peut transformer notre corps, on peut transformer notre cerveau, tout ça, c'est plastique, c'est bien vrai.
Et j'encourage tous nos auditeurs à... vous pouvez apprendre n'importe quoi. Je disais tout à l'heure, prenez du temps et en étant concentré sur une activité, vous allez progresser. Mais ça, c'est quel que soit votre âge. Donc, vous pouvez apprendre.
Quel que soit votre âge.
Quel que soit votre âge, absolument.
Ouais. Ne nous mettons pas des barrières.
Non, pas du tout. Vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez sans arrêt vous transformer et aller dans la direction de la personne que vous voulez être.
Joli autour de cette question de l'attention et de la concentration, comment se mettre dans la tête des champions. Nouvelle question pour vous, soulevée par un autre chercheur en neurosciences. Il s'appelle Iraj Gurden et il est lui spécialiste de l'odorat.
Bonjour Jean-Philippe, j'avais une question sur des mécanismes d'attention cérébrale, sachant qu'on dispose de 5 sens différents qui sont tout le temps actifs pour regarder le monde extérieur. Comment le cerveau se débrouille pour pouvoir faire attention à ces 5 sens? Est-ce qu'il peut le faire en même temps ou est-ce qu'il le fait de façon séquentielle? C'est vraiment pour moi un mystère. Merci beaucoup.
Que pouvez-vous répondre à Iraj Gurden, Jean-Philippe Lachaud?
Alors déjà, je vais faire une réponse simple, c'est que la plupart du temps, il y a des sens qui disparaissent dans l'expérience d'un champion.
Ah, quand on est vraiment dans l'attention au maximum,
oui,
la concentration
maximale. Oui, c'est-à-dire ce qui sert à rien est vraiment éliminé. Parce que le rôle de l'attention pour le champion, mais comme nous-mêmes, ça va être de simplifier notre monde pour que ce soit plus facile d'y évoluer. Donc, par exemple, j'ai un haltérophile qui me dit, Venceslas Dabaya, qui me dit que pendant les Jeux Olympiques, au moment où il va monter la charge, il n'entend plus qu'une voix dans tout le public. tout disparaît sauf une voix, c'est celle de son ami qui lui envoie des encouragements. Il n'entend plus le reste. Ça disparaît. Et j'ai eu
un super pouvoir de cet haltérophile extraordinaire.
Oui, mais en fait, c'est la sélectivité de l'attention qui fait que quand elle se resserre sur certains éléments, le reste disparaît. De la même façon, vous avez très souvent des athlètes qui vous disent qu'ils ne ressentent plus le froid, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il pleut, etc. Parfois, ils oublient la douleur. Donc, il y a des modalités sensorielles qui disparaissent. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a aussi qui, dans certains cas, se joignent entre elles pour former des objets multisensoriels. Alors, j'ai un exemple, et c'est un des super pouvoirs des champions. C'est... une joueuse de tennis ancienne top 30 qui me dit que dans les meilleurs moments, dans les moments où elle était la plus concentrée, Alexandra Fusaï, qui me dit la balle, elle sent la balle comme une partie de son corps. C'est-à-dire qu'elle la voit, la balle, de l'autre côté, mais en même temps, elle a l'impression que c'est une partie de son corps. Donc, elle peut la localiser dans l'espace avec cette précision-là. Et c'est-à-dire que la modalité qu'on appelle proprioceptive, qui concerne la position des objets, des positions du corps, en fait, va...
S'étend jusqu'à...
Elle s'étend et elle va se combiner à la modalité visuelle pour en fait présenter l'information d'une façon qui est plus efficace pour elle, pour se positionner par rapport à la balle. Et donc ça donne des sensations qui sont extrêmement bizarres et difficiles même parfois à se représenter, mais qui constituent presque le quotidien de certains.
De certains super champions, super héros. Parce que vous dites aussi, et vous le dites tout le temps, qu'on peut tous développer un peu de
ça. Oui, mais il faut réfléchir à tous. Dès l'instant où on fait quelque chose beaucoup, souvent, on devient très bon. Le meilleur exemple, c'est le langage. On parle beaucoup, on passe notre temps à parler, mais on est des super champions du langage.
Oui, bien sûr. Nous, les humains.
Mais oui, les humains. On a cette capacité, quand quelqu'un commence à parler, dire quelque chose, de commencer à anticiper la suite de la phrase. C'est exactement ce que va faire un champion avec la position des autres joueurs, etc. Du coup, on commence à préparer sa réponse. On s'entend même prononcer la réponse. Donc, vous voyez, en fait, il faut chercher dans ce qu'on fait ces petites indications, ces petites choses un peu bizarres que les autres ne vont pas comprendre forcément, que ce soit du pilates, que ce soit du chant, etc. On a pratiqué, on devient un petit peu un super champion de son domaine.
Et bien justement, quel est le champion, la championne, vous en avez cité beaucoup, qui vous a, comment dire, peut-être le plus marqué, le plus surpris, appris ou fasciné, Jean-Philippe Lachaud?
Ils m'ont tous bluffé.
Bah oui, ça je me doute.
Après, moi, j'aime bien parler de sens de l'équilibre attentionnel.
Et oui, c'est votre dada, ça, l'équilibre attentionnel. Être sur le
plutôt que cette idée de crispation, c'est cette idée de correction douce. Et vous avez un très grand champion qui s'appelle Nathan Paulin, qui était recordman, qui est, je pense, recordman du monde encore, de la distance parcourue sur une slackline jusqu'au Mont-Saint-Michel, et qui est un vrai modèle, qui devrait être un modèle pour tout le monde.
Le funambule des sommets, le skyliner Nathan Paulin, je propose de l'écouter dans cet extrait qui date de 2022 et qui a été repris sur Culture Prime.
J'ai commencé la slackline en 2011. J'ai marché sur une sangle entre deux arbres. Et ce qui m'a plu, c'est le côté un peu méditatif, la concentration intense que ça demande. Je me suis mis à faire des distances de plus en plus grandes. À la fin, j'ai fait des records. Au début, souvent, j'ai un peu peur. Je suis pas hyper à l'aise. J'ai besoin de prendre mes repères. Une fois que j'ai réussi à retrouver mes repères, à m'adapter, là, je peux accéder à des choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus belles que je vais rechercher. Premièrement, déjà, un sentiment de liberté. On a l'impression de voler. On est un peu comme un oiseau. Sur un fil, je me mets un peu dans un état d'hypersensibilité. J'ai besoin en fait que tous mes sens soient très éveillés pour techniquement tenir en équilibre sur ce fil. En fait, je vais capter les éléments, le vent, la pluie. J'ai l'impression vraiment de faire partie du lieu pendant ces moments-là. Et des fois, en fait, cette concentration intense, elle amène à un état un petit peu qu'on pourrait qualifier de transe, en fait, un état un peu de conscience modifié. Cet état de transe, je le ressens assez souvent, c'est ce que certains peuvent appeler l'état de flow. C'est un état dans lequel on est bien, on a l'impression que tout devient facile et tout découle de manière très très simple.
Extraordinaire, on a tous envie d'y arriver. Enfin, peut-être pas être funambule comme lui, moi la skyline, c'est pas pour moi. Mais à cet état-là, alors je sais pas, de transe, de flow, vous l'avez évoqué avec
cette woman,
mais en même temps, c'est quoi ? C'est à un moment où on est tout à fait là, avec tous les sens en éveil et au meilleur de soi-même ?
Oui, il y a une sorte de double concentration où on est complètement dans l'instant, dans ce qu'on fait, chaque geste, etc. Sans réflexion à propos de ça, on n'est pas en train de se dire « il faut que ». La double concentration, c'est que cette concentration très locale sur le moment, elle est accompagnée d'une concentration sur l'ensemble.
C'est les deux en même temps.
C'est enfin, les deux en même temps, oui. Voilà. Et qui dicte, qui du coup, où la perception globale de sa situation, de « j'en suis là », etc., va en fait guider les mouvements, ce que je dois faire juste ensuite. Donc, on n'a plus l'impression de prendre des décisions conscientes, on a l'impression que ça se fait totalement naturellement, avec une sensation d'évidence. Et donc, il y a une connexion totale à ce qu'on fait, avec en plus une sensation d'évidence, que c'est évidemment ce qu'il faut faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle typiquement le flow. Effectivement, le flow, l'idée d'un fleuve qui coule.
Et qu'est-ce que ça dit aux neuroscientifiques que vous êtes ? Qu'est-ce que ça dit à la fois de notre cerveau, de nos capacités et aussi de nos empêchements, parce qu'on n'y est pas souvent là-dedans, hein, de ce genre
ouais,
de...
Oui, bien sûr. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue même opérationnel de mes recherches quotidiennes. Mm-hmm. Ça me dit que peut-être que la plupart du temps, quand on se concentre avec trop d'efforts. Il y a une crispation qu'on ajoute à ça qui n'est pas forcément nécessaire. Et donc, il y a toujours moyen de... Et je pense que c'est une question à se poser, c'est est-ce que je ne contrôle pas trop ? Là, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux laisser faire ? Et j'en parle dans le livre parce que je pense que c'est vraiment une voie. Et d'ailleurs, en plus, donc Nathan parle de cet état. Et d'ailleurs, il faut insister, Nathan Paulin, sur le fait que je ne suis pas sûr que pour lui, l'objectif, ce soit vraiment d'aller, de parcourir ces 2,6 km. Ces 2,6 km
jusqu'au moment.
Non, je pense que l'objectif, en fait, c'est l'état. Il fait ça pour l'état, pour retrouver cet état de concentration et de connexion à ce qu'il fait. Et il y a une autre personne qui m'en a parlé, c'est Charles-Louis Horiou, qui est un grand maître de Kyudo, le tir à l'arc japonais, et qui m'a parlé de ça. Et cette recherche de l'état, et ce n'est pas la flèche dans la cible, on s'en fiche, c'est un prétexte. C'est vraiment cette recherche de facilité. Et lui, Charles-Louis, me dit, dès que je me rends compte que je contrôle quelque chose, j'essaie de le relâcher. C'est vraiment un travail, parce que passer un petit radar, vous avez l'impression que vous contrôlez trop quelque chose, vous relâchez ce contrôle. Pour essayer au maximum de laisser faire tout ce qui se fait bien naturellement.
Et en même temps, c'est très subtil et c'est complexe. C'est pour ça que votre livre, il est génial, parce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Parce qu'au fond, c'est paradoxal. On se dit, ces super champions, ils s'entraînent comme des fous. Ils sont excellents dans leur domaine. Donc, on est quand même dans l'entraînement, dans l'effort, sur la durée. Pour après, quoi, tout lâcher ?
Lâcher. Alors, pas totalement lâché, parce que vous avez. J'ai un slalomeur olympique, Julien Liseroux, qui me dit : moi, si je lâche tout, je finis dans la neige, enfin, dans les décors. En fait, c'est faut pas tout lâcher, mais il faut garder un contrôle minimal. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça peut s'appliquer à n'importe quoi qu'on fait,
où on
peut se permettre de lâcher, de faire confiance à cet automatisme.
On a beaucoup travaillé, qu'on s'est beaucoup entraîné, on peut faire confiance à ces automatismes.
Oui, mais marcher dans la rue, combien d'années vous êtes entraîné à marcher dans la rue ? Eh ben, le marché dans la rue, c'est un exemple où on peut commencer à se mettre dans cet état de se laisser faire. Faire sa vaisselle, c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça de la vie quotidienne où peut-être qu'on met trop d'efforts, trop de crispation, ou alors au contraire, trop peu. C'est-à-dire qu'on est complètement dans ses pensées.
Ah.
Mais il y a un état intermédiaire à trouver où on est au contact de ce qu'on fait, mais sans trop contrôler.
Ah, c'est complexe. Vous y arrivez, vous, Jean-Philippe, en travaillant là-dessus ?
En tout cas, j'essaie de plus en plus souvent, oui.
Vous avez été marqué, en tout cas, vous me l'avez dit, par l'exemple des champions qui ont bercé votre jeunesse. Alors, on peut citer Carl Lewis, McEnroe. On peut s'arrêter, c'est ce que vous avez choisi sur cette année 1984 de tous les records et d'un autre Euro de foot. Et l'année aussi du tube de Springsteen que vous avez choisi d'écouter, qui a 40 ans tout rond, ce morceau mythique. Allez, je donne son titre quand même, bah oui. Born in the USA sur RFI. Oh! Qui peut résister à Bruce Springsteen, Born in the USA, un vrai tube sorti il y a 40 ans tout rond et qui vous a marqué, Jean-Philippe Lachaud, comme nous tous hein, et toutes d'ailleurs dans ce studio. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête de Bruce Springsteen, mais enfin, ça devait y aller assez
ah
fort.
Ah oui, ça
hein,
devait y aller assez fort, ouais. c'est ça, non, c'est beau. C'est pas pour une apologie particulière de l'Amérique, je crois qu'en ce moment, ce n'est pas trop le moment.
Pas non plus, enfin, je ne sais pas de quoi on peut faire, de quel pays on peut faire l'apologie en ce moment, mais c'est même, encore une autre question.
Même si j'aime beaucoup une certaine Amérique. Mais en tout cas, c'est 84, quoi. Et 84, bah, j'avais 14 ans et ça a complètement résonné. Enfin, pour moi, c'est une année. Donc, ça marque cette année, 84. Ouais. Et c'est une année qui, en termes de sport, a été très riche et m'avait vraiment nourri. Carl Lewis, les JO de Los Angeles, si je me souviens bien. On gagne l'Euro. On n'avait rien gagné en foot, mais même en quoi que ce soit depuis des dizaines d'années. Et puis vous avez cette finale de Wimbledon. Entre McEnroe, John McEnroe et Jimmy Connors. Et je crois que McEnroe gagne en laissant 3 jeux à Connors ou 4 jeux. Et à la fin, et la couverture du Tennis Magazine, c'était « Silence, il joue ».
Wow.
C'était vraiment l'état de grâce total.
Autour de la question « Que se passe-t-il dans le cerveau des champions ?» titre de votre ouvrage, Jean-Philippe Lachaud. Allez, je vous propose, vous qui êtes chercheur en neurosciences cognitives, spécialiste de l'attention et de l'intention, une question qui vous est spécialement adressée par François Lassagne, rédacteur en chef de Pour la Science.
Il est assez connu aujourd'hui que chez les sportifs au moins de haut niveau, l'intentionnalité, la projection consciente de ce que sera le geste à exécuter est importante pour réussir ce geste de la manière la plus performante possible. On sait aussi aujourd'hui que la méditation, alors dans toutes ses variétés, parce qu'il y en a beaucoup, mais que la méditation est un bon outil pour maîtriser son attention et sa concentration. Alors, question très simple, est-ce que la méditation est aujourd'hui un outil que les sportifs, surtout de haut niveau, pratiquent un peu, beaucoup, est-ce qu'ils sont incités à le faire?
Votre réponse, Jean-Philippe Lachaud.
Il y a deux questions.
Ouais.
Il y en a une sur la visualisation. Alors, il y a la visualisation avant, on s'imagine en train de gagner, enfin, pour générer des émotions positives, etc.
À travers des techniques de méditation.
Voilà. Alors, oui. Et puis, il y a cette micro-visualisation que parfois ils ont. C'est un joueur de squash qui va voir juste avant l'amorti qu'il doit jouer. Il la voit, il se voit en train de la jouer.
Ah, il visualise véritablement
mais vraiment,
ce qui va se passer.
Ça vient dans son esprit. C'est maintenant, il faut jouer ça. C'est ça qu'il faut faire. Mmh. Donc, formidable. C'est comme si on, comme un GPS qui me dit, il faut tourner à droite. Mmh. Bah, lui, c'est, il faut faire cet amorti. Donc ça, il faut savoir que ça existe hein, chez eux.
Ça existe parce que ça s'est développé petit à petit. C'est vraiment un cerveau d'expert, là, pour le coup.
C'est exactement comme quand on parle et que vous vous entendez dire ce que vous voulez dire juste après. Donc c'est vraiment la marque de l'expertise. Et pour la méditation, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était là encore de comprendre. Effectivement, ils font de la méditation. Mais la méditation sur la respiration, certes, c'est intéressant, mais quand on est en train de rouler dans sa voiture de rallye à 200 km sur des petites routes, voilà, la méditation avec la concentration sur la respiration, ce n'est pas tout à fait adapté. Donc, en fait, ils reprennent le principe de la méditation, qui est d'avoir une cible attentionnelle très claire ou une suite de cibles attentionnelles très claires, donc une trajectoire attentionnelle, et dès que l'attention dévie, de la ramener. C'est ça qu'on fait dans un centre de méditation, sauf qu'on va prendre une image mentale, on va prendre une petite flamme, on va prendre une émotion, on va prendre sa respiration. Bah, eux, ils le font, mais avec des choses qui leur servent dans le cadre de leur sport. Et du coup, ça resitue la méditation dans un sens complètement, enfin, vraiment élargi, qui est beaucoup plus facile à s'adapter soi-même à ses activités de la vie quotidienne.
Et au fond, c'est quand même aussi le message de votre ouvrage, Jean-Philippe Lachaud. J'ai envie de reprendre, parce que c'est vraiment à ça que vous répondez, la question d'un de nos auditeurs à Cotonou, au Bénin, Davy James Cook. Il dit, au fond, y a-t-il une différence entre le cerveau d'un champion et un cerveau normal? Mais il ajoute, on est tous des champions dans un domaine ou un autre. Comment le savoir? Comment muscler? Comment entretenir notre cerveau? Mais au fond, on peut tous être des champions dans un domaine ou dans un autre.
Oui, tout à fait, exactement. Mais même tout simplement, toutes les activités qu'on répète tout le temps et où on a des automatismes qui sont hyper efficaces, ça peut être des activités, les trucs les plus banals de la vie quotidienne. Hein. On peut retrouver cet état entre le lâcher prise et cet état de douce connexion à ce qu'on fait, sans partir dans ses pensées et tout en étant vraiment dans cette en intervenant de façon minimale avec ces automatismes efficaces. C'est très taoïste, en fait. Ça rappelle une idée qui s'appelle le Wu Wei.
Non-agir.
Ou l'agir minimal, c'est-à-dire juste l'action minimale, qui est en fait une recherche d'une très grande facilité dans ce qu'on fait.
Oui, c'est étonnant. On en revient à la facilité, à pas d'effort, à la tranquillité, au calme,
ça.
Alors qu'on parle de championnat, de super niveau, d'athlètes, de super pouvoir. C'est quand même assez contraire à ce qu'on véhicule quand même beaucoup dans nos sociétés de consommation, où ça va très vite et il faut aller toucher à tout. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, si on vous lit, si on vous suit.
Non, mais disons qu'il faut accepter cette société de tumulte dans laquelle on est, parce qu'on ne peut pas la, renier. Enfin, on est pris là-dedans. Mais l'espèce de message d'espoir que je veux faire passer dans ce livre, c'est qu'on peut retrouver de la facilité, de l'aisance, même dans ce tumulte. C'est possible.
Et du plaisir aussi.
Évidemment, du plaisir, un très grand plaisir, une très grande satisfaction.
Le plaisir d'être quoi ? D'être connecté au fond à soi et au monde ? Enfin, quelque chose de cet ordre-là ?
Et un message presque politique.
Oui, on peut y aller, hein, en ce moment, on a besoin.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quelle est la vraie récompense ? Qu'est-ce qui motive les gens pour faire ce qu'ils font ? Est-ce que c'est juste leur salaire ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des vacances ? Si on reste là-dedans, en fait, on est cuit parce qu'on ne sera jamais assez payé, on n'aura jamais assez de vacances, etc. Donc, c'est toujours... il faut se nourrir d'autre chose.
Bien sûr.
Donc, il faut se nourrir on peut se nourrir de la qualité de la connexion, de l'état dans lequel on est quand on fait ce qu'on fait en y mettant tout son cœur.
Ça fait vraiment du bien et ça nourrit vraiment.
Mais oui, et non pas pour faire plaisir à son patron, etc., mais pour se nourrir soi-même. En fait, aller chercher soi-même, je dirais pas à la force du poignet, parce que ça donne une impression de crispation, mais aller chercher soi-même sa récompense dans l'activité elle-même. Et j'ai l'air de... Enfin, je peux jouer le beau rôle en disant « Bah oui, mais je suis chercheur, métier passion, etc. » Mais moi, j'aime bien dire que les sportifs ont un métier extrêmement pénible.
C'est vrai.
C'est très pénible, un entraînement. C'est très répétitif. On perd souvent, on se blesse, etc. Et malgré tout, ils y arrivent. Donc, tout le monde peut y arriver.
Merci infiniment pour tous ces messages, Jean-Philippe Lachaud. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces pistes dans le cerveau des champions. C'est le titre de votre dernier essai particulièrement inspirant, paru chez Odile Jacob, et dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et curieux, un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. La chance vous sourira peut-être, puisque nous sommes tous des champions en puissance et en potentiel, si nous nous entraînons et nous recentrons, c'est bien ça, hein, sur ce qui est essentiel. Jolie leçon à méditer grâce à vous, Jean-Philippe Lachaud. À bientôt, vous revenez quand vous voulez pour la suite.
Le plus vite possible.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast. À la fin de cette semaine, nous partons en reportage à Madagascar pour enregistrer plusieurs émissions à Tana et à Majangin. Vous nous écoutez sur 96 FM avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous vos et nos possibles. À l'écoute de RFI, les infos.